France Culture.
Mon père est mort d'une manière qui a été foudroyante. Il était malade, mais je ne le savais pas. D'abord, ça m'a appris le malheur. Je crois que ça m'a appris presque toutes les choses, sans que je le sache, puisque je n'avais que 10 ans, mais ça m'a presque tout appris de ce que j'ai dû ensuite réapprendre et comprendre quand j'étais adulte.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Pagaille, bataille et les mots pour le dire. Aujourd'hui dans votre book club, deux autrices partent de la mort du père. Peut-être faut-il entendre d'emblée le double sens de cette phrase. La mort est à la fois l'origine d'une écriture et le point dont on s'éloigne pour y revenir, pour en repartir. Partir de, donc. L'une envisage justement un drôle de road trip post-mortem avec le père disparu. L'autre s'imagine thanatopractrice comme s'il fallait, premier degré, prendre soin des cadavres. Les deux romans se dirigent avec force et les moyens du bord, la littérature, l'analyse, les figures mythologiques, la chimie sur dépouille, vers la vie. Un maintenant plus coloré, plus vif aussi, qui tournerait davantage en leur faveur. Des secondes naissances, en somme. Marion Quentin et Anne Terral sont les invités de votre book club pour leur livre tout juste paru. En fin d'émission, on écoutera les livres là où ça chante, pour le grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure. Il y a plein de monde dans la régie. Bienvenue à toutes et à tous dans le book club. Bonjour Marion Quentin.
Bonjour.
Ton cadavre exquis a paru aux éditions POL. Soyez la bienvenue dans le book club.
Merci beaucoup.
On est ravis de vous recevoir. Bonjour Anne Terral.
Bonjour.
Votre livre « Où vif » a paru aux éditions Vertical. Soyez la bienvenue dans le book club. On est ravis.
Merci.
De vous recevoir. C'est une maison que vous connaissez un petit peu puisque vous avez signé et signé encore des fictions pour France Culture, cette belle radio violette. Ici, tout commence toujours au book club par ce qu'on appelle le questionnaire lecture. On fait le portrait de nos invités. Peut-être même un cadavre exquis, j'avais pas pensé à ce petit jeu de mots gratos de vous en tant que lectrice. Peut-être pour se dire que voilà, c'est notre manière de commencer la conversation, de se demander quel livre vous avez trouvé ou pas sur votre passage. Vous diriez que vous commencez comment votre vie de lectrice, Marion Quentin ?
Alors moi, très tôt, avec une addiction pour Poule Rousse d'Étienne Morel et de Lida Djurdjukova. Une addiction vraiment forte qui fait que je la lis, je ne sais pas lire, donc ma mère me la lit tous les soirs et j'apprends par cœur et je crois que je lis alors que je ne lis pas. Mmh. Et puis avec les abonnements, donc avec vraiment l'excitation petite de savoir que le samedi je vais recevoir, j'aime lire les belles histoires et puis après Spirou Magazine, il y a vraiment cette attente. J'adorais l'attente du livre qui arrive ou du magazine qui arrive.
Comme par ailleurs, l'attente est un motif assez intéressant dans vos deux livres. C'est marrant d'entendre ça dès le début, Marion Quentin. Mais peut-être revenons sur Poule Rousse qui vous a fait l'une et l'autre grimper les sourcils au front. C'est quoi ce livre, Marion Quentin ?
Alors, Poule Rousse, c'est l'histoire d'une poule rousse, comme le nom l'indique, qui a une grande amie, son amie la tourterelle, et qui va être attaquée par un loup qui souhaite la manger. Et en fait, c'est une grande histoire d'amitié. Mais moi, j'adorais l'idée
entre la poule et la tourterelle.
Oui,
l'amitié.
Entre la poule et la tourterelle, qui vont finir leur vie ensemble. Et en fait, j'aimais beaucoup cette histoire d'amitié. Alors, on peut imaginer que c'est plus qu'une amitié, finalement, quand on est plus grand. Mais j'aimais tellement l'idée qu'on puisse être avec une copine dans une maison avec du thé et tranquille.
Du coup, les livres pour l'enfance ou pour l'adolescence comme un espace de tranquillité, à la fois tranquillité et attente.
De tranquillité et de possible, en fait. Mmh. Moi, c'est la littérature. Je pense que dès petite, j'ai beaucoup passer de temps dans les bibliothèques municipales avec l'heure du compte, enfin voilà, ces choses comme ça. Je pense qu'évidemment, alors on a souvent tendance à dire que c'est un lieu où on peut s'échapper. Moi, je crois que c'est le lieu de tous les possibles. Et en fait, je croyais les histoires et je me disais, mais j'ai mille vies qui m'attendent et libre à moi de choisir laquelle ou de ne pas choisir. Et c'était une excitation, la lecture, vraiment.
Anne Terral, vous aussi, vous avez rencontré Poule Rousse ?
Mais oui. Ben, c'est que on ne l'a pas fait exprès du tout. On
ne sera pas votre seul point commun, peut-être, au cours de l'émission.
Voilà. Mais oui, Poule Rousse, alors moi, il y avait oui cet aspect de l'amitié, mais aussi, je m'en rappelle, pour moi, c'était une histoire où tout était très bien rangé.
Là, vous êtes toute petite, on est d'accord.
Oui, on ne savait pas encore lire. On a 4 ans, c'est un album du Père Castor. Et voilà, moi, Poule Rousse, Marlaguette, Mishka, enfin, j'ai été biberonnée aux albums du Père Castor.
Mishka, c'est l'ours ?
Oui, Mishka, c'est l'ours qui attend que son jouet soit livré. Enfin, non, plutôt, il est lui-même un jouet. Il a que ça comme. Enfin, le petit garçon ne reçoit que un ours un peu fatigué.
Ah oui, Mishka.
Mais moi, c'est Marlaguette aussi qui est cette petite fille qui s'occupe d'un loup et qui va parler avec ce loup, qui va soigner ce loup, qui va le nourrir et qui va l'aider à aller mieux. Et ça aussi. Mais Poule Rousse, c'était tout l'aspect très méticuleux aussi. Il y avait une grande sécurité dans cet album pour moi.
Donc ça veut dire que vous étiez en lien avec ce qu'on appelle la littérature jeunesse, les albums, les livres pour enfants.
Oui, parce que je me souviens vraiment de toute la série aussi des Roald Dahl. Là, j'avais 7-8 ans, mais on est en 78, c'est le moment des livres de juniors, enfin, comment ça s'appelle déjà, des juniors de chez Gallimard. Et là, je me souviens que James et la grosse pêche font partie de ces livres qui ont, je pense, déployé mon imaginaire.
Est-ce que ça a fait de vous quelqu'un qui a aimé la lecture tout de suite, d'emblée et pour toujours?
Moi, ça a été un refuge, c'est très clair. Bon, après, j'étais entourée de livres, mon père était prof de français, et donc je suis née dans les livres, mais ça a été vraiment pour moi, les livres ont été un refuge, ont été un moyen d'aller plonger dans l'imaginaire pour sûrement me couper un peu du réel, ça, c'est sûr.
Justement, je parlais de deux textes dont les narrations partent de la mort de la figure d'un père et dont on peut dire, sans trop trahir, qu'il y a une part autobiographique dans ces deux livres-là qu'on a au programme du Book Club. Est-ce que la lecture a joué un rôle dans l'après-mort du père pour vous, Anne Terral ?
Oui, la lecture et surtout aussi parce qu'elle venait nourrir une écriture. Moi, dès la mort de mon père, quand j'avais 9 ans, je me suis mis à écrire, à raconter des histoires parce que l'absence a ouvert, une sorte de machine à fiction, machine à histoire à l'intérieur de moi. Ça, c'est évident. Et après, la lecture, comme je le disais, c'était vraiment un refuge et ça m'a permis de... Il y avait beaucoup de livres à la fois qui étaient consolateurs, mais aussi des livres qui me montraient que la vie, la joie de vivre était toujours là. Et en particulier, je me rappelle des Roald Dahl, mais il y avait entre autres ce besoin d'aller chercher de la joie.
Donc, dans la catégorie des gens qui ouvrent ou n'ouvrent pas des livres dans un moment de très grande perte et de très grand deuil, vous êtes plutôt du côté de ceux qui ont ouvert des livres et à qui ça a fait du bien.
Oui, l'imaginaire, je pense, vient tromper la mort. Enfin, sûrement, et réparateur d'une certaine façon. Mais bon, on va peut-être en parler après. Mais...
Vous êtes quoi comme lectrice aujourd'hui, Anne Terral ?
Une lectrice très intéressée par tout ce qui est contemporain. C'est vrai que j'aime beaucoup lire ce qui se fait aujourd'hui, l'écriture actuelle, parce que ça m'intéresse de voir ce que racontent les autres et comment ils le racontent, surtout comment ils le racontent.
Qu'est-ce que vous y cherchez comme signe des temps dans cette écriture contemporaine ? Être attentive à ça, c'est être attentive à quoi, d'après vous ?
Je pense à la façon dont on se raconte le monde. Enfin, par exemple, là, en ce moment, je suis en train de lire le Chant de la rivière, là, de Wendy Delorme, qui est un livre absolument magnifique et qui fait parler une rivière. Et ça, par exemple, je trouve que c'est une idée absolument géniale. Et c'est un très beau livre. Et je pense que c'est un regard sur... tout ce qui est beau dans ce monde actuel où tout est quand même assez compliqué. Et c'est vraiment une ressource pour moi d'aller voir comment nos contemporains voient encore le monde malgré tout.
Qu'est-ce que vous êtes comme lectrice aujourd'hui, Marion Quentin ? Qu'est-ce que vous êtes devenue après l'enfance comme lectrice ?
Après l'enfance, il y a eu toute la phase préadolescente où effectivement, moi, les juniors Gallimard, moi, c'était les chairs de poule. Donc ça, c'était voilà. Et après,
non. Faire peur un peu, quoi.
Moi, j'aime bien me faire peur, j'aime bien jouer. Donc, du coup, quand Anne parlait du fait que après la mort, il y a eu beaucoup de lectures. Moi, je pense que ça a déclenché plutôt l'écriture parce que le fait que mon père ne soit plus là, c'est à mon tour de prendre de la place et de jouer. Donc moi, il y a vraiment, je suis une lectrice, je pense, assez décomplexée. Je lis tout et n'importe quoi en fonction des moments. Donc, j'ai une petite préférence, je pense, pour la littérature contemporaine.
Vous aussi, voilà. Pour les mêmes raisons ? C'est votre manière d'être attentive au monde ?
C'est une manière d'essayer de s'approcher d'une forme de lucidité de notre temps, mais je picore, c'est-à-dire que je vais voilà, je suis pas du tout fidèle à un type de littérature, je suis pas très fidèle aux auteurs non plus, c'est-à-dire que c'est vraiment je papillonne.
C'est d'ailleurs, je crois que c'est dans votre livre à un moment donné qu'il y a l'idée que il faut pas s'en tenir à une histoire figée, il faut papillonner.
Oui,
c'est possible
bien.
Ça Oui, je crois. Je l'ai trouvé chez vous, ouais.
Je sais, c'est, enfin, en tout cas, ça me ressemble un peu. Oui, j'aime bien le côté ludique de la vie. J'aime bien l'idée de se dire que voilà, la vie, et la mort, j'aime bien le prendre comme un grand jeu. On n'a qu'un ticket et autant jouer. Donc j'ai cette forme
de lecteur,
de
lecture
et de lecture, je pense.
Et alors, qu'est-ce qui vous fait papillonner d'un livre à l'autre? Qu'est-ce qui vous fait rester dans un livre? Qu'est-ce qui vous fait partir?
Ah non, je reste. Par contre, je reste dans les livres.
Ah, vous restez jusqu'au bout?
Oui. Non, je m'arrête pas de lire.
Vous aussi?
Oui.
Interalle.
Ah oui, c'est impossible de. Ah, même si le livre ne me plaît pas.
Vous restez.
Je vais rester parce que j'ai besoin de. Ouais. J'ai besoin de... Mais peut-être je ne lis pas autant que vous, Marie.
Je ne sais pas. Donc, en tout cas, vous restez jusqu'au bout. Et qu'est-ce qui vous ferait partir? Rien, du coup.
Qu'est-ce qui me ferait partir? Non, je crois
vous
que
vous fermez
rien.
Pas un livre après l'avoir ouvert. Mais je ne peux pas vous croire, ce n'est pas possible. La vie est trop courte, précisément. Vous avez dit, on n'a qu'un seul ticket.
Ouais, non, je ne sais pas. Non, je me fais embarquer, quoi. Non, je me fais embarquer. Non, je ne ferme pas un livre. Mais... Non, parce que même s'il y a des livres, évidemment, que je n'aime pas ou qui peuvent provoquer en moi quelque chose proche de la colère, de l'indignation.
Mais ça vous intéresse, au contraire.
Ça m'intéresse. Mmh. Oui, ça m'intéresse, donc je vais jusqu'au bout. Après, je ne le recommande pas, si.
mais vous n'êtes pas contre, vous êtes pas contre être pas... contre un livre, quoi, être fâché par un livre.
Non, j'aime bien l'expérience.
Pareil pour vous, Impera?
Oui, enfin, je réalise que je choisis très parcimonieusement mes livres.
Du coup, vous n'avez plus aucune raison de vous en aller après.
Je prends du temps dans les librairies pour vraiment parcourir un peu le livre avant de l'acheter. J'avoue. Et donc, en général...
C'est autorisé par la loi, je crois. Hein.
Comment?
C'est tout à fait autorisé par la loi.
Oui. Normalement, oui, dans toutes les librairies. Et donc, en général, c'est assez rare que je me trompe d'une certaine façon. Donc, tant mieux pour moi et pour mes sous. Hein. et c'est pour ça que, par exemple, Marion parlait des bibliothèques. Oui, ça, c'est vrai que c'est une
c'est
vraie liberté.
C'est ce que
liberté.
J'allais dire.
C'est une vraie liberté.
Sinon, là, on peut aussi avoir une bonne carte de bibliothèque municipale.
Oui, exactement.
Et dans ce cas-là, ça coûte pas très cher de se tromper. Vous mettez l'une et l'autre des textes en exergue de vos ouvrages. En ce qui vous concerne, Anne Terral, c'est les lettres à un jeune poète de Rilke. Rilke qui a aussi, on va dire... sa manière de planer sur votre texte, peut-être qu'on y reviendra. Est-ce que vous voulez nous dire un mot de ce livre en particulier, cette lettre à un jeune poète?
Oh ben oui, lettre à un jeune poète, je pense que c'est vraiment le livre qui m'a permis de me dire oui, c'est possible, je peux écrire, je suis capable d'aboutir quelque chose. Ça a été vraiment un encouragement. Enfin, je lisais les lettres à un jeune poète comme si elles étaient adressées à moi, vraiment.
C'est un texte où Rainer Maria Rilke adresse véritablement des lettres à un jeune poète.
Oui.
Et vous y avez trouvé quoi? Conseils manière de conforter votre vocation?
Oui, cette idée de toujours persister, quoi qu'il arrive, de recommencer. Enfin, voilà, et c'est vrai que, oui, quand j'ai trouvé cet exergue, ça a été... Donc je vous lis. « Nous devons accepter notre existence aussi complètement qu'il est possible. Tout, même l'inconcevable, doit y devenir possible. » Au fond, le seul courage qui nous est demandé est de faire face à l'étrange, au merveilleux, à l'inexplicable que nous rencontrons.
Ça me fait penser à Constance Debré qui était à votre place hier et qui citait Wittgenstein en parlant de la totalité des faits. Il y a vraiment en effet une sorte de manière comme ça de responsabilité d'embrasser tout ce qui est là et puis ensuite on voit ce qu'on peut faire avec. Vous, c'est Georges Bataille que vous citez, Marion Quentin. Vous êtes une lectrice de cet auteur, de ce philosophe?
Oui, je suis une lectrice de ce philosophe, mais un peu... une lectrice comme avec les autres auteurs, c'est-à-dire
papillonnante aussi.
Oui, et quand j'aime les auteurs, je m'oblige à ne pas tout lire pour qu'en cas de gros pépin, il m'en reste un sous la main. Donc je suis quelqu'un qui ne lit pas toute l'œuvre des auteurs que j'aime. Et oui, et Georges Bataille, moi je pense que les livres, je suis assez mauvaise élève dans le sens où j'ai du mal à citer les titres, les auteurs, rappeler, analyse. Non, il n'y en a pas. Voilà, je lis pas de cette manière. Je lis avec un peu les sens. Donc, je sais, par exemple, que mon premier chagrin d'amour, il a été porté par Beauvoir et l'invité. Je sais que la première fois que j'ai eu envie de lire de la littérature, c'était avec Carrère et la classe de neige. Je sais que la première fois que j'ai eu envie d'écrire, c'était avec Angot. Et je sais que la première fois où j'ai décidé
prendre... Avec quel texte d'Angot ?
Un amour impossible. Et puis, la première fois que j'ai décidé de prendre le risque face à mon père, face à sa mort, et donc surtout prendre le risque de prendre soin de moi, je suis allée du
après sa mort, hein.
Juste après. J'ai commencé à écrire le livre de son vivant, mm-hmm. mais c'est après sa mort. Mm-hmm. Je me suis tournée vers Bataille parce que et l'expérience intérieure. Mm-hmm. Parce que je crois qu'il m'a mis dans un peu une espèce de transe où finalement on est quand même sur un fil, il y a un vertige avec Bataille. Et puis c'est morbide et en même temps il y a quelque chose de ludique. Hein. Chez Bataille, il y a un truc...
Et de la vitalité et de
la dépense. Oui, de la vitalité, voilà. Et je crois que c'est pour ça que c'est en exergue, c'est que je pense que c'est à ce moment-là où j'ai décidé que je prendrais ma place. C'est avec Bataille.
Est-ce que pour vous aussi, Anne Terral, les lectures sont, comme le disait à l'instant Marion Quentin, reliées à du sensible et donc éventuellement à des souvenirs de vie ?
Ah oui, complètement. Quand je réfléchissais à cette question, je me suis rappelée en 84, quand ma mère est rentrée à la maison avec l'amant de Duras, qui venait d'avoir le Goncourt. Et pour moi, c'était, on sortait un peu de tous les vieux livres, les vieux Balzac, les vieux Zola qu'il y avait dans la mezzanine, le bureau de mon père. Et ma mère arrivait avec l'amant.
C'est un peu marrant en plus comme phrase quand même.
Oui.
Non, j'ai vu ma mère rentrer avec l'amant.
Exactement. Et je me souviens de ce livre d'édition de minuit, très beau, très moderne, beau. Très blanc, sur le buffet un peu plus noir du salon. Et j'avais 14 ans et je me suis dit, je vais le lire.
Et vous l'avez lu ?
Et je l'ai lu, oh oui, bien sûr.
Immédiatement à 14 ans ?
Ah oui, je me rappelle, j'avais déjà lu un peu des livres de Duras. Et ça avait été, tout d'un coup, c'était la modernité qui rentrait dans la maison.
Et puis par ailleurs, il est tellement question de sa jeunesse à elle et de l'expérience comme ça, érotique, perturbante, coloniale, de l'amour, du désir sexuel, et que ça devait percuter quelque chose.
Oui, complètement. Ça percutait, oui, en effet, toute mon adolescence. Et puis aussi, je me rappelle très bien de mon attention à la forme. Enfin, c'est là, quand Marion disait qu'elle a eu envie d'écrire avec Angot, je crois. Mm-hmm. Voilà, moi, là, avec Duras, je me suis dit, waouh, j'aimerais aussi un jour arriver à... je sais pas, à déconstruire les phrases, à avoir une syntaxe un peu particulière. Je me suis dit, c'est possible. Ça aussi, c'est comme Rilke. Tout d'un coup, tous les possibles s'ouvraient, je m'en rappelle, avec ce livre.
Ça crée de l'énergie. Il n'y a pas très longtemps, ou plutôt il y a longtemps que je n'ai pas posé cette question dans le questionnaire lecture du début, à savoir, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous attend ? Est-ce que vous vous dites, bon, ça, je n'y suis pas allée, mais j'ai comme vraiment l'intuition que ça va le faire pour moi ? Marion Quentin, un jour.
Alors, moi, c'est pas que j'y suis pas allée, c'est que j'y suis allée et que ça n'a pas marché et que je pense que...
Il faut y retourner.
Oui, c'est Dostoïevski. Dostoïevski, c'est quelqu'un, quand je le lis, il me rend folle. J'ai envie de jeter le livre par terre, je me sens mal, je suis mal à l'aise, ces personnages me violentent, m'énervent, j'ai envie de secouer le livre comme j'aimerais secouer les personnages. Je pense que j'ai loupé quelque chose.
Ou pas. Ou peut-être que vous êtes complètement au cœur du cyclone et que c'est parfait, non ?
Je crois que c'est ça qui m'attend. La littérature russe en général, que je connais assez peu et pour lequel il y a quelque chose qui marche pas, et la poésie. Parce que la poésie, de la même manière, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se rapproche. J'ai un blocage un peu, comme avec les mathématiques, j'arrive pas... Dès que ça devient trop conceptuel ou abstrait, j'ai une peur. Et je me dis que ça, c'est quelque chose qui m'attend dans mes prochaines décennies.
Anne Terral, est-ce que vous avez comme ça, au loin, des rendez-vous ?
Non, mais je rebondis là-dessus, en effet, sur cette histoire de poésie, parce que parfois aussi, la poésie... n'est pas toujours évidente comme ça à intégrer dans ma vie. Enfin, je suis plus du côté des romans ou des récits. J'aime beaucoup les récits. Mais j'ai découvert Laura Vasquez. Et là, franchement, j'ai découvert les forces. Mais là, je viens de m'acheter, il n'y a pas longtemps, La Semaine Perpétuelle. Et je me suis dit, je vais beaucoup plus la lire parce que j'ai bien senti que là, il y avait vraiment une question qui m'intéressait, une façon d'appréhender la langue qui m'intéressait. Et voilà, alors après, bon, il y a plein d'autres écrivains vers lesquels... Là, j'ai rien qui me vient.
Bon, c'est un beau programme, voilà. Déjà. Laura Vasquez, deux livres publiés aux éditions du Sous-Sol et qu'on peut écouter, réécouter dans le Book Club. On va parler de vos deux livres désormais, juste après ce morceau de la chanteuse Théodora, morceau qui ouvrait son album ou la réédition de son album Méga BBL en 2025. Un morceau lettre au père, c'est papa avec cœur, avec une allitération en V, ville après ville, en voiture avec mes frères, on vrille.
Je me souviens, nos glaces vanille chocolat. Mon premier bad boy, mon premier bad. Lui, il m'achetait tout, tout, tout. Un olifi, ça coucou, tout. T'es taf, corde au cou. Pour quatre souliers, il m'a coucou, tout. Peur. La corde au rock, c'est pretty, fixe, bimi, tout en mioum, mioum. J'ai la chug, elle a mes pieds, je crie à mes chiens, mais vas-y, mioul, mioul. J'ai mon ciel et tes cris, donc j'ai dû sortir les feux gris. Fini les carrettes, c'est caca, le beau des gars, ton gars te gras.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un jour, le père mort rappelle « Allô ma biquette, ma bichounette, c'est moi ». Et ce n'est pas une mauvaise blague, c'est la liberté du roman. Les fantômes ont des téléphones, ils ont même des 403 pour rerouler dedans. Peut-être même qu'il reste suffisamment d'eau sauvage dans le flacon pour les parfumer de nouveau. Et quelques clopes pour des volutes. Dans Où vif, l'un des deux livres au programme de votre book club aujourd'hui, vous imaginez, Anne Terral, ce possible impossible retour avant que la fille ne dépasse l'âge qu'avait le père en mourant. Dans le deuxième livre dont on a choisi de parler, tout commence sur une table de thanatopraxie. Table fictive, mais geste bien réel, pour déplier, reconstituer le Maccabée et l'histoire. Pas pleurer, travailler, tourner le corps, chercher ce qu'il porte comme souvenir du vivant, un avant la mort et l'autodestruction, si seulement ça existe. Car dans cette histoire, le père était alcoolique et violent, fascinant et fascinamment pris dans une spirale de souffrance. On en parle avec vous deux, Marion Quentin, Ton cadavre exquis, apparu aux éditions POL, Anne Terral, Où vif, apparu aux éditions Vertical. On a abordé tout à l'heure très très rapidement au passage le titre que vous donnez à votre livre, Marion Quentin, puisque ce sont deux livres qu'on fait dialoguer. Mm-hmm. Partons de leur premier point commun qu'ils ont de jouer avec une expression, avec quelque chose de la langue. Comment avez-vous choisi ce titre-là et à quoi il nous invite, à quoi il nous relie d'emblée ?
Alors, comment j'ai choisi ce titre, Cadavre exquis, c'est venu assez naturellement parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire en inventant mon propre jeu. C'est-à-dire que j'ai commencé à écrire du vivant de mon père, mais qui était en train de mourir. Et j'ai scotché des feuilles sur 1,85 m que j'ai pliées. J'avais dessiné son corps nu dessus et j'ai plié. Et j'ai commencé à déplier et à écrire tout ce qui me venait en tête quand je découvrais les parties du corps. Donc, il y avait vraiment, je voulais garder l'idée du jeu. Cadavre exquis.
Dont on rappelle le principe du jeu, qui peut être loupien. Donc, c'est, on écrit une phrase, on cache cette phrase en rabattant le papier, on le donne à son voisin ou sa voisine qui écrit il ou elle une phrase, etc., etc. Puis en dépliant, on découvre un texte, un poème, un cadavre exquis.
Exactement. Eh bien, moi, j'ai joué avec moi-même, c'est-à-dire que comme j'écrivais pas au même moment, ni forcément dans les mêmes temps, on est plusieurs personnes. Hein, du coup, j'avais ce jeu de jouer au cadavre exquis avec les plusieurs filles que j'ai été pour mon père, quoi.
Et les plusieurs parties du corps sur le papier.
Exactement. Ouais. Et puis, ton, bah, c'est parce que, évidemment, je parle du cadavre de mon père. Un père qui, comme vous l'avez dit, est mort d'alcoolisme. Et puis, c'était aussi un jeu de mots, cadavre exquis, parce qu'il y a eu le soulagement de sa mort. Et que donc, il y avait la réconciliation avec lui possible parce qu'il était mort et parce que le vivant l'avait quitté. Parce que finalement, ce qui me prenait trop de temps ou trop de place, c'était la partie vivante qui s'autodétruisait. Donc, voilà comment est né ton cadavre exquis.
Même question pour vous, Anne Terral, ou vif ? On entend une expression de la langue française. Comment est-ce que vous êtes arrivée à ce titre et de la même manière, à quoi il nous invite d'emblée?
C'est Wanted, mort ou vif, sur les affiches des westerns que j'adorais regarder quand j'étais petite. Il y avait vraiment un esprit de revanche. Et je pense que quand j'ai eu envie d'écrire ce livre et d'écrire sur ce thème, il y avait l'idée d'aller se d'une certaine façon, que ce livre soit un peu comme une riposte face au réel. Et je n'ai pas tout de suite trouvé ce titre, parce qu'au début, je voulais qu'il s'appelle 403. Et puis, il était assez abstrait.
La voiture.
C'était un peu difficile, voilà, comme la voiture, qui est la voiture du père dans le livre. Et voilà, et la date limite qu'ont donné mes chers éditeurs, c'était le 17 juillet, je me rappelle. Et la veille, je me suis dit, voilà, j'étais en vacances dans la Creuse et je me suis dit, il faut que je trouve absolument un titre. Et tout d'un coup, il y a eu ce mort ou vif, il y a eu ce ou vif, et qui correspondait complètement à mon livre, donc pourtant qui était déjà écrit et qui était déjà dans les tuyaux, avec cette alternance, cette idée de la mort et du vivant, du chagrin et de la joie, et avec cette idée d'un élan de vie qui était dans ce ou vif malgré la mort, et cette notion un peu binaire comme ça, cette dualité, ça correspondait complètement à cette alternance qu'il y a dans mon livre, hein, puisque ça tresse deux parties, et donc tout d'un coup, c'était l'illumination.
Est-ce que le fait que le mot mort n'y soit pas à la couverture, ça nous raconte quelque chose de la forme de votre texte ou de votre élan d'écriture ?
Oui, tout est parti de l'absence, et en même temps, enfin, je me souviens quand j'avais commencé à écrire ce texte, voilà, j'étais plutôt sur le passé, dans une temporalité assez longue, l'idée de raconter l'histoire de cette narratrice de l'âge de 9 ans à 24 ans, etc. Et puis, il manquait un contrepoint, une ligne mélodique, en fait, qui n'était pas là. Et tout d'un coup, il y a eu cette joie, en fait, l'émotion de la joie qui est venue en réalisant que, mais oui, la littérature peut tout me permettre. Et je peux tout à fait faire revivre mon père et m'offrir ce cadeau d'un voyage, d'un rêve éveillé, donc ce voyage un peu irréel. J'ai aimé cette idée que, en effet, sur la page, sur la couverture, en plus avec cette mise en page des éditions verticales, ça tombait impeccable, qui est ce mort en filigrane, enfin voilà.
On va écouter une archive, c'est la voix de la très grande autrice Hélène Cixous, ici en 1987. Elle parle de l'événement qui a troué le réel, la mort de son père, elle a alors 10 ans.
Pour moi, ça a été un événement, comment vous dire, imaginons que la guerre éclate du jour au lendemain. Ce n'est jamais le cas, hein, on la voit venir, je crois. Mais imaginons ça, imaginons qu'il y ait un tremblement de terre, imaginons un cataclysme extraordinaire, c'était ça. Si vous voulez, c'est comme si tout d'un coup l'univers qui était peuplé, dans lequel je circulais, un petit peu comme dans la création du monde, ça fait disparaître Dieu, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, on se dit, voilà, on est des enfants, il y a le paradis, il y a Dieu quelque part, bon, ça va, on peut faire des bêtises, il y a une limite, il y a quelqu'un quelque part, quelque chose quelque part, un pouvoir.
Un repère.
Et là, ça a été mais un arrachement, et j'ai eu, je sais, je me souviens très bien d'avoir éprouvé tous les sentiments les plus violents du monde, la peur, la terreur, la douleur, enfin tout. C'était aussi, certainement, ça doit être une de ces périodes de la vie où les événements ont une force. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois, ils ont la force de l'enfance, quelque chose d'extrêmement frais, d'extrêmement pur. Et en même temps, si c'était la toute petite enfance, ça s'effacerait, alors que là, ça imprimait, tout s'imprimait. Je me souviens de chaque détail et des conséquences, parce qu'il y a eu énormément de conséquences autour de cette histoire. Et je pense que, sans le savoir, parce qu'on ne commence à savoir que longtemps après avoir fait expérience, mes premiers textes étaient écrits dans un rapport à la perte de mon père, mais je ne le savais pas, c'était plus fort que moi, c'était tout ce que j'avais à dire à ce moment-là. Et je crois qu'effectivement, d'abord, je pense qu'on écrit pour garder en vie, pour en tout cas pour sauver de la trace, parce que je ne peux pas garder mon père en vie, par exemple. Mais par contre, je crois que c'est une activité de préservation. C'est une lutte contre l'effacement, contre l'oubli, je l'ai souvent dit, et j'ai très souvent dit, et je le crois profondément, en tout cas mon geste à moi, je sais, dans l'écriture, c'est un geste de tentative d'inscrire le plus fragile.
1987, et la voix toujours tellement aimée d'Hélène Cixous qui parle de l'événement de la mort de son père, d'abord comme l'idée de la perte de Dieu. Et je pense que c'est intéressant de parler de la figure paternelle qui existe dans vos deux textes. Vous n'utilisez pas le mot Dieu, mais vous utilisez le mot héros, et vous présentez une fille comme héroïnomane, avec l'idée d'une addiction à son excitation, à la fascination qu'il exerçait. Est-ce que c'est ça qui chute quand il meurt, entre autres choses?
Moi, c'est pas quand il meurt. C'est quand je pressens qu'il va mourir. Et donc, ça dure très longtemps, parce que je pressens très vite que ça va mal se terminer. Donc, je prévois déjà sa mort. Et c'est ça qui va me suivre toute mon enfance. Et c'est ça qui fait que je suis quand même un peu déréalisée. C'est-à-dire que c'est quand. Je suis dans l'attente un peu du drame. Mmh.
Et la mort est dans la vie. D'ailleurs, vous parlez des vivants morts et des morts qui sont vivants. Les vivants que vous décrivez dans votre texte sont bien entamés par la mort.
Oui, c'est je fais pas trop de différence entre les vivants et les morts. Je crois qu'au quotidien, je vis autant avec mes vivants et mes morts. Ça se mélange, quoi. Après, est-ce que mon père, est-ce qu'il y avait quelque chose de Dieu? En tout cas, c'est sûr que c'était une figure qui prenait beaucoup de place. Et il y a un peu l'idée du sacrifice quand même de la fille, quoi, qui a envie de le guérir, qui a envie de le sauver, qui a envie d'être celle qui va permettre de le remettre un peu sur son piédestal. Donc évidemment, il y a un peu quelque chose de la fille un peu infirmière, mais aussi un peu bonne sœur, qui est dans le pardon aussi tout le temps, donc hyper sacrificielle. Mais est-ce que c'est un dieu? Je ne crois pas.
Hélène Cixous, elle dit qu'il y a dans le geste d'écrire l'idée de garder en vie, puis elle se reprend, en fait, non, on peut pas garder en vie, par contre, on peut sauver la trace. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre geste d'écriture, Marion Quentin?
Garder la trace, oui, j'aime bien l'idée, j'aime bien l'idée du matériel, de l'objet, et je le dis dans le livre, j'ai un rapport, j'ai pas envie de me faire incinérer, j'ai envie d'être enterrée parce que j'ai envie d'avoir une tombe, et même si c'est perdu au milieu du monde, même si personne ne vient me voir, il y a cette idée d'être là et d'avoir cette trace qui est comme la couverture du livre, en tout cas sur la pierre tombale. Oui, je crois que c'est important, et en même temps, pas tant que ça, c'est important dans mon temps, j'attends pas ce que ça reste pour l'éternité, quoi, ça c'est pas du tout...
Anne Deran, vous utilisez plutôt le mot roi pour parler du père, je crois, non, pas du tout.
Ah, peut-être.
Je crois. En tout cas, il y a quelque chose de la petite fille qui est saisie, quasiment au même âge qu'Hélène Cixous dans cette archive de 1987 et qui dit, faut imaginer, c'est comme une guerre qu'on n'a pas vu venir et qui éclate. Est-ce que c'est quelque chose de cet ordre-là?
Oui, c'est très beau, là, tout ce qu'elle... Je connaissais pas du tout cette archive. La mort du père, pour moi, et donc pour cette narratrice dans mon texte, en effet, a été extrêmement brutale du jour au lendemain. Et je parle d'ailleurs dans mon texte de cette journée juste avant, enfin, quelques jours avant sa mort, où il y a eu un accident, mais tout bête, de voiture, de pare-brise qui éclate en morceaux. Et cette dispersion, cette fragmentation, après, quand je me suis souvenue de tout ça, après, je sais que cette image est vraiment restée très fixe, obsédante dans mon esprit. Et je me rends compte qu'elle parlait déjà de cet état, de cette fragmentation, de cet éclat dans ma vie, enfin, qui est brusquement arrivé quand j'ai appris du jour au lendemain que mon père était mort. Et comme elle dit, en effet, tout s'effondre. Et c'est pour ça que, oui, après, je me rappelle très bien que c'était tellement inexplicable. C'était inexplicable que tout d'un coup, quelqu'un disparaisse du jour au lendemain. Et comme elle note, là, Hélène Cissou, tout s'imprimait. Voilà. Après, à partir de là, je pense que ma mémoire est devenue extrêmement visuelle, extrêmement concrète par rapport à tout ce qui était les sens, les couleurs, les sons, les odeurs. Et j'ai voulu, je pense que la narratrice s'est raccrochée à toute cette matière, à tous ces objets aussi, qui sont très importants aussi dans mon livre, pour tout d'un coup se raccrocher à une réalité qui n'allait pas comme ça se dissoudre sous ses pieds.
Elle parle d'ailleurs, Hélène Cissou, d'un savoir qui se constitue presque avant qu'on sache qu'on sait. Le corps sait avant d'une certaine manière, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans vos deux textes, Marion Quentin et Anne Terral. Est-ce que le moment de l'écriture, c'est un moment où on peut se saisir enfin de ce savoir qui nous a comme précédé, Marion Quentin?
Oui, je pense. Moi, j'ai effectivement, on sait un peu en avant. Donc, moi, par exemple, avant que mon père meure, je me voyais mourir moi. Donc, je pense qu'on pressent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça fait qu'on se pose beaucoup de questions. On est assez. Moi, j'étais assez persécutée par les mots, par le pourquoi, mais comment. Je comprenais rien. Et c'est vrai que l'écriture.
Alors que vous n'êtes pas enfant, contrairement à Anne-Thérèse.
Et je ne suis pas enfant. Oui, c'est vrai qu'on peut se saisir. Mais moi, je me suis énormément amusée à écrire sur le cadavre de mon père. Donc, il y a l'idée de cette liberté de se jouer de la mort, de se jouer de la vie aussi, et de se dire... après, est-ce qu'on s'en saisit? On s'en saisit jamais vraiment.
Du savoir, vous voulez dire?
Non, du savoir, non, je crois pas. Et heureusement, parce que sinon, ce serait très triste si à 40 ans, je savais déjà tout. Bon, je crois que j'aurais plus tellement envie de continuer. Donc, mais en tout cas, il y a ce fantasme d'aller toucher une vérité quelque part qu'on a pressentie et qu'on n'a pas encore atteint. Je crois pas qu'on l'atteigne. Et puis, d'écrire, finalement, après, on a des retours, les gens le lisent. Et puis, ça bouscule aussi ce qu'on avait cru quand on l'écrivait. Donc, finalement, ça ne s'arrête jamais. Et c'est assez beau. Et c'est pour ça que je pense qu'on aime écrire et qu'on aime vivre aussi avec nos lectures. C'est que c'est sans fin.
Anne Terral, vous, il y a aussi l'idée d'un savoir physique ou un savoir des lieux, un savoir des dates qui vous précède, qui précède presque un savoir intellectuel. Est-ce que l'écriture, ça permet de mettre de l'ordre là-dedans?
Oui. Ce qui est drôle, c'est que vraiment peu de temps après la mort de mon père, enfin, et là, j'en parle dans le texte, la narratrice se met à écrire tout un petit carnet d'enquête. Elle se met à tout classer, à tout penser, à tout en cherchant le coupable, parce que pour elle il y avait un coupable forcément, et il y avait vraiment tout était tellement énigmatique qu'il y avait cette idée, voilà, je vais chercher le coupable, je vais trouver, et du coup je sais plus quelle est votre question.
Bah, je pense plutôt à des moments où vous avez peur de mourir dans un certain endroit où vous avez comme la préscience d'un savoir, ce que décrit Hélène Cissou, c'est-à-dire on ne sait pas qu'on sait, mais on passe une partie de sa vie avec des années et un jour on peut se saisir de ce savoir.
Oui, c'est vraiment en écrivant ce texte que peu à peu je suis repassée par tous les états qui ont traversé cet enfant et cette adolescente surtout. Et en effet, vers l'âge de 20 ans, une espèce d'état second où tout d'un coup j'avais l'impression que j'allais mourir et je me suis rendu compte, enfin je vais pas révéler ce suspense, mais
et qu'en tout cas quelque chose faisait retour,
voilà, cette angoisse. Exactement. Et en même temps, enfant, je me rappelle que je jouais à la mort. Enfin, Marion parle aussi beaucoup de jeux. On jouait avec ma meilleure amie à la mort. On jouait à faire semblant d'être mort. Et c'était vraiment, je pense, pour ressentir ce qui avait pu traverser mon père, évidemment. Mais il y avait quelque chose aussi de l'ordre du jeu pour creuser cette énigme.
On va écouter un extrait de votre texte, Anne Terral, Où vif. Fil d'Ariane fixé le long des murs de la ville, les couleurs des enseignes avec fleurs, portables, gadgets, sandwichs à emporter, avec journaux, vêtements, livres, lunettes, téléphones encore, se succèdent et se fondent pour former une ligne quasi fluorescente que je suis du regard. Vais-je finir par rencontrer le Minotaure ? Dans un café. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café du centre. N'est-il pas absurde, après toutes ces années, de se donner rendez-vous dans un café et dans la foule pour vivre ce moment personnel à l'excès, sans doute le plus bouleversant qu'on puisse connaître au cours d'une existence. Mais nous ne sommes pas à une aberration près, pas vrai ? Puisque dans cette histoire, tout est contraire à la raison. Puisque tout est plus que rocambolesque, plus que démesuré, bien au-delà de la totalité des mythes et légendes hors normes réunis en un seul champ. Quelqu'un viendra-t-il saisir mon bras ? Arrêter mon pas, me fixer dans les yeux et me dire que je fais fausse route ? Pour me détourner de mon chemin, me racontera-t-il un tout autre scénario que celui que je suis en train de vivre ? Quoi qu'il arrive, je n'écouterai personne. Car c'est la première fois que je traverse l'infinie saison de ma vie sans toi, tous les jours de mon attente et de mon manque, joyeusement. Cette sensation nouvelle, je la laisse s'épanouir comme un cadeau inespéré. J'approche ma seconde chance, j'accélère mon pas. Il y a deux choses que je voulais aborder avec cet extrait de votre livre, Anne Terral, à la fois le recours aux figures mythologiques d'Ariane et du Minotaure, et aussi le rapport au temps. C'est-à-dire, à la fois, c'est une infinie saison qui a duré jusque-là, et en même temps, c'est la seconde chance, c'est la joie soudaine. Il y a un rapport au temps qui est très singulier dans votre texte, dans vos deux textes d'ailleurs. Est-ce que vous voulez bien nous dire comment on pourrait en parler de ce rapport ? Quel temps régit votre texte, d'une certaine manière ?
Oui, il y a plusieurs temps. Ouais. Il y a vraiment plusieurs temps qui régissent ce texte. Et ça correspond tout à fait au temps de l'écriture aussi. C'est-à-dire, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu ce temps où j'ai commencé par écrire plutôt sur le passé, plutôt sur la narratrice petite fille. Et puis tout d'un coup, il manquait quelque chose, un tempo, un rythme, une lumière. Et m'est venue cette idée de la joie et de ce second temps, beaucoup plus court, beaucoup plus ramassé. Et donc, oui, je pense que la temporalité, en plus, dans ce texte est particulière, puisque j'ai vraiment mis beaucoup de temps à écrire ce texte. Je ne m'autorisais pas à écrire sur la mort du père. J'avais l'impression, je me disais, il faut que je trouve un autre sujet, c'est pas possible. J'avais déjà écrit mon premier roman autour du père, mais complètement une fiction. Et il y avait vraiment cette idée que ce sujet... m'a choisi, ce n'est pas vraiment toujours nous qui choisissons les sujets sur lesquels on souhaite écrire, c'est vraiment ce sujet m'a choisi et donc après avoir retourné ce texte dans tous les sens et avoir écrit dans divers temps aussi, à divers pronoms aussi, mmh. J'ai eu beaucoup de mal à accepter de dire je et de dire tu. Ça paraît tout simple, mais au début ce texte il était écrit au il, au elle, parce que ça me permettait de mettre une distance. Et puis ensuite je me suis dit non, allez, allons-y, allons dans cette intimité-là, parce que c'est cette intimité que je n'ai pas assez connue et que j'ai voulu revivre et retrouver. Donc
Et la joie dont vous parlez, c'est celle de la très grande liberté de l'imagination, c'est celle de pouvoir prendre une 403 et remonter dedans et d'avoir un coup de fil de son père et d'avoir rendez-vous dans un café. On va peut-être faire ça devant tout le monde. Bah si, allons-y. Enfin, c'est aussi faire l'expérience très jouissive de la littérature, d'une certaine manière.
Quand j'ai trouvé cette idée, ça a été vraiment jubilatoire. Et je me suis dit, mais oui, je vais m'offrir cette joie et l'offrir aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs, lectrices là, qui me disent « Ah, mais ce texte m'a fait du bien !» Parce que tout d'un coup, il y avait cet accompagnement qui était possible entre le père et la fille qui ne s'étaient pas connus. Il y avait cette inventivité, cet imaginaire qui en effet, voilà, se retrouvait autour d'une part de clafoutis et d'une limonade, et avec aussi la gitane, ou la gauloise, pardon, à la bouche, alors qu'on n'a plus le droit de fumer dans les cafés. C'est tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, tout est possible.
Mais avec l'idée d'une deuxième chance, et il me semble que la question de la deuxième naissance, d'ailleurs, elle est là aussi dans votre texte, Marion Quentin, comme si, finalement, en étant au volant de votre texte, pour reprendre cette métaphore de la conduite et du road trip, d'un seul coup, c'est vous qui décidez. Tout à l'heure, vous avez dit écrire, c'était reprendre la place, mais c'est aussi reprendre le contrôle et du cadavre, et du corps, et du temps.
Oui, effectivement. C'est vrai que c'est une reprise de contrôle, parce que je pense que moi, le fait que j'ai voulu prendre en charge mon père, au lieu d'en prendre soin, a fait que finalement, je me suis mis dans une position où j'étais pas du tout dans le contrôle. J'étais dans un accompagnement un peu
là, dans le réel, vous voulez dire.
Dans le réel. Ouais. Mais du coup, je le ressentais. Et je crois que c'est au moment où je me suis dit, OK, là. Et en fait, au moment de sa mort, il n'y avait plus rien à prendre en charge. C'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de la thanatopraxie. C'est que c'est des gens qui ne prennent pas en charge. Il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a plus rien à guérir. C'est mort, mais on prend soin. Et du coup, ça a ouvert un espace pour moi où je me suis dit, bon, il est temps de reprendre cette place. Et de prendre ton temps à toi, que j'avais pas forcément eu l'occasion d'avoir, pas uniquement de la faute de mon père ou de sa maladie, mais aussi de ma responsabilité à avoir été complètement omnubilée par ce père. Parce que, voilà, mes sœurs sont pas du tout comme ça. Mmh. Donc c'était aussi, c'était ce temps-là. Mais
D'ailleurs, vous racontez comment finalement votre temps est là, plutôt votre temps d'enfance et votre temps d'adolescence, il est comme rapté par la fascination, parce que vous ne faites pas le portrait d'un père qu'il est si facile à détester. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a de la violence, il y a de l'addiction, il y a la maladie de l'alcoolisme, il y a la déréalisation et les humeurs si changeantes que ça peut rendre fou, mais vous racontez aussi qu'il est par-dessus ça, ou avec ça, ou en même temps que ça, question d'amour.
Oui, je le déteste pas du tout. J'ai énormément de tendresse pour mon père. Ça ne veut pas dire que je pardonne tout et que tout est acceptable. Par contre, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Et je pense que si mon père n'avait pas été un peu frappadingue comme ça, est-ce que j'aurais pu me permettre d'écrire sur son cadavre, de son vivant ? Certainement pas. Donc, il m'a à la fois fait du mal, mais j'ai envie de dire, c'est aussi la conséquence d'une maladie. Je pense pas, et puis d'une histoire qui lui appartient et que je ne maîtrise pas.
Et donc vous dites qu'il avait presque pas le choix de vivre une autre vie.
Je pense que c'était compliqué. Après, je suis pas dans sa tête et c'est pas ma place et je le saurai jamais. Mais en tout cas, je ne le déteste absolument pas. C'était mon partenaire de jeu et mon partenaire de crime, entre guillemets. Et là, c'est moi, je l'ai écrit pas du tout comme un requiem contre pour prendre ma place. C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait maintenant que ça peut être plus joli, en fait. Donc c'est...
Bah justement, ça va être plus joli. Vous allez remaquiller en inventant cette table thanatopraxie. On écoute un extrait de votre texte.
Enlever la housse, casser les rigidités cadavériques, mécher l'anus et couvrir tes parties intimes. Voilà quels seront mes premiers gestes. Quand je forme des stagiaires, je finis leur formation par cette étape qui me semble la plus délicate. Celles qui suivront n'auront pour aboutissement que de rendre le mort plus vivant. Nous n'avons pas le pouvoir de ressusciter, mais nous ressuscitons l'image de la personne. De jaune cireux, leur teint reprendra une couleur naturelle, les blessures seront floutées, les visages reconstitués, les traits marqués seront détendus, les mains crispées seront massées et positionnées croisées sur le ventre. Du cadavre, nous ferons un homme ou une femme, pris dans un sommeil éternel. Mais avant ça, il faut le soulever, le déshabiller, lui faire faire de la gymnastique. Les premières fois peuvent être brutales si l'on n'a pas en tête la finalité du travail accompli. Alors, je forme à rebours. Je forme au coiffage, puis au maquillage, puis à l'habillement, puis à la conservation, puis à la réception du corps. Et me voilà avec le tien, et me voilà à redouter ce moment. Je pourrais appeler une collègue pour m'aider, mais ce serait casser une partie du lien que nous allons devoir créer ensemble. Car oui, il existe un lien entre le thanatopracteur et le mort. Nous sommes face à face, seuls, et dans une intimité exceptionnelle, de par la nudité et la conscience aiguë de pratiquer des gestes sur quelqu'un qui ne peut plus vous accorder sa confiance ou son consentement. Cela oblige à un respect digne de l'au-delà.
Un extrait de votre texte, Marion Quentin, ton cadavre exquis, finalement, cette narratrice qui forme elle-même des stagiaires en thanatopraxie et qui forme au geste. Elle parle du lien, un véritable corps à corps de celle qui pratique ses soins post-mortem. Quelque chose qui permet de rejouer sans risque ce que vous appelez la bataille incestueuse ou la bataille incestuelle entre la figure du père et la figure de la fille. Ça passe par des gestes, pas pleurer, mais travailler.
Oui, alors que je suis assez feignante dans la vie, donc je ne sais pas d'où sort cette idée. Mais non, c'était le corps. C'était vraiment l'idée du corps, de prendre soin du corps, de quelqu'un qui n'a pas été capable de prendre soin de son propre corps. Donc j'avais vraiment ce fantasme, parce que c'est un fantasme, je ne suis pas thanatopractrice, de m'accorder ce prendre soin. Et tout en ayant quelque chose qui peut être cru, parce que les gestes sont des gestes de drainage, de suture, enfin voilà, ça n'enlève pas les cicatrices, ça n'enlève pas les rigidités cadavériques, excusez-moi. Et c'était un moyen aussi de couper court au déni, quoi, qu'on avait dû vivre. Donc mon écriture n'est pas dans le déni, et en même temps c'est mon propre déni, puisque j'écris et donc je mens aussi et je me fais ma propre histoire. Donc j'aimais bien inverser les rôles et m'amuser avec ça.
En même temps, vous racontez aussi comment ce roman il vient de ce jeu du cadavre exquis où vous dessinez, là on est vraiment dans le réel, cette silhouette d'1m85 qui reprend le corps de votre père alors qu'il n'est pas mort. Et d'une certaine manière, tous ces gestes que vous racontez, que vous faites faire à votre narratrice, c'est aussi, on n'est pas très loin du médecin légiste, métier que veut pendant tout un temps exercer l'enfant ou l'adolescente, c'est aussi une manière de lire le corps après la mort, voir ce qu'il raconte, voir ce qu'il peut encore raconter.
Oui, mais c'est lire le corps pour, sans avoir justement, comme le médecin légiste, l'obsession d'une vérité ou d'une réponse. Et ça, c'est ça que j'ai trouvé très beau dans l'idée de la thanatopraxie. C'est qu'il n'y a pas de réponse. On est avec un corps et il ne nous apportera rien. On n'est pas en train de chercher une raison de la mort, une pourquoi de la mort. Et c'est ça que je trouvais très beau, c'est cette non-réponse. Et l'idée de me lâcher, moi aussi, avec cette idée absolument absolue qu'il faut une réponse pour aller mieux. Non, il y a des mystères et allons-y, quoi.
Anne Terral, votre texte termine par une date. En effet, il n'y a pas grand-chose qui est sûr et peut-être que vous aussi, il y a beaucoup de choses qui restent incertaines dans la mort de ce père. En revanche, ça vous permet de confirmer que oui, c'était bien avant la rentrée scolaire. Oui, ça, c'était une date. Et donc, on en revient à la vision particulière du temps pour cette narratrice. Comment est-ce que vous décririez la place du corps du père dans votre texte ?
Oui, j'ai réfléchi à cette question. Il est assez effacé, il ne parle pas beaucoup. Parce que je pense qu'il y avait aussi cette idée de, pour moi en tant qu'autrice, de reprendre le contrôle de la vie, de ce père à qui je propose ce voyage. Je propose de conduire moi-même la 403, de l'embarquer.
Donc, à la limite, c'est vous qui lui montrez le paysage.
Oui.
C'est vous qui lui montrez les scènes et la vie.
Il déploie une carte géographique, il regarde si, en effet, il n'y a pas des nouveaux pays qui ont apparu pendant son absence. Et c'était vraiment l'idée, en effet, de l'accompagner, cet accompagnement que je n'ai pas pu du tout vivre, puisqu'il y a eu cette mort brutale, et de m'offrir voilà, ce voyage. Mais lui, il n'avait pas en effet grand-chose à dire, à part d'accord. Je lui demande, est-ce que tu es d'accord pour qu'on parte? Oui, allez, d'accord. D'accord, ma chérie, ma bichette. Et quelques mots, il mange des dates, il regarde la Grèce, l'Italie, enfin des pays où il n'a pas souvent voyagé. Et voilà, c'était vraiment l'idée que par l'écriture, tout d'un coup, c'était possible. J'allais accompagner ce père et quelle que soit vraiment la fin de l'histoire, tout d'un coup, j'étais
roulant
de la 403.
Ouais. On va écouter rapidement la voix de Camille, auditrice. Elle vous pose une question sur la forme du texte.
Bonjour le Book Club et bonjour Marion Quentin. J'ai lu votre livre qui m'a énormément marqué. Je l'ai trouvé poignant et bouleversant. Votre roman a eu sur moi l'effet d'une véritable déflagration. Je trouve que c'est le terme exact pour définir votre livre. Je l'ai lu d'une seule traite. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine musicalité dans le texte, que celui-ci pouvait se lire aussi bien à voix haute qu'à voix basse, et que c'était magnifique. J'ai d'ailleurs eu envie d'apprendre des paragraphes, voire des pages entières par cœur. J'ai donc quelques questions pour vous. Comment avez-vous procédé pour arriver à une forme aussi originale et poétique? Est-ce que vous-même, vous avez lu votre texte à voix haute pendant l'écriture? Je vous remercie pour votre réponse.
Merci à vous, Camille, pour cette lecture. On va prendre la deuxième partie, parce que je crois que la première partie, on y a répondu considérablement pendant cette émission. Est-ce que vous avez lu votre texte à voix haute, Marion Quentin, pour travailler?
Et ça m'est arrivé. En fait, quand j'écris une fois, je relis une fois dans ma tête et je le relis une fois à l'oral. Par contre, je ne le fais pas du tout à la réécriture. Mais oui, au moment de l'écriture, je fais les deux.
Pareil pour vous, Anne-Terral, la recherche d'une sonorité, d'une musicalité?
Oui, constamment. À vrai dire, constamment, jusqu'à la dernière minute, jusqu'aux corrections sur épreuve. Je me dis, voilà, ça va pas si on le dit, si on le prononce à voix haute. C'est vraiment fait partie du travail pour moi. Ouais.
Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et dans le Book Club, on écoute les livres là où ça chante, là où il y a de la musique pour le grand jeu des pages musicales. On est allé piocher dans votre texte, Anne-Terral. On se quitte donc avec un extrait de Où vif. Ce qui suit, je ne sais pas si tu le croiras. D'ailleurs, je ne sais pas non plus si je suis capable de te le raconter. Vais-je réussir à convoquer et à retranscrire ici tout le mystère de ce qui s'est mis en mouvement ce jour-là à l'intérieur de moi, à la manière d'une machinerie de théâtre, avec ses grincements, ses surprises? Tout un puzzle chaotique à ordonner, dont j'ai longtemps ignoré les pièces manquantes. Je te demande de ne pas douter. Écoute cette musique. À ce moment de l'histoire, écoute avec moi. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I'm a wall again. C'est un samedi soir, vers 19h, au beau milieu d'un printemps qui s'étire, sous une lumière qui papillonne. En vrac, il y a mes pieds nus, le frais du carrelage dans le salon. La danse encore et encore au son psychédélique de The Cure et sa love song. However far away, I will always love you. Et ce désir qui s'exacerbe chaque jour. J'ai 19 ans, faim tout le temps, d'une énergie qui me dévore et pour la première fois, une jupe m'habille juste au-dessus du genou. Ma mère est partie voir des amis, absente jusqu'au lendemain soir. Dans l'immense maison, c'est une solitude inespérée pour un week-end entier. Car il y a mon cœur et il est transporté. J'attends celui qui, depuis le début de l'hiver, me fait la vie intense.
Merci beaucoup Anne Terral d'avoir été avec nous pour parler de votre livre Ou Vif, paru aux éditions Verticales. Et merci à vous, Marion Quentin, d'être venue ici pour parler de votre livre Ton cadavre exquis, paru aux éditions Pewell.
Merci.
Et un grand merci aux élèves de seconde de la classe média de l'ESAT de Roubaix, qu'on a vu derrière la vitre et dont l'écoute était palpable. Au son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, particulièrement aujourd'hui à Mathilde Wagman. On peut continuer la conversation sur le compte Instagram du Book Club, animé par Alexandre Alaïbegovitch.